VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 3 mars 2017, en direct de Washington. Idrissa Seroudia et Anne Albertson. Tout d'abord, les titres.
En République démocratique du Congo, l'opposition s'est dotée d'une nouvelle direction, un mois après la mort de son chef, Étienne Tshisekedi.
Au Gabon, le directeur général des douanes rejoint en prison d'autres hauts responsables incarcérés dans le cadre de l'opération anticorruption Mamba.
Au Sahel, fusion d'Ansardine d'Iyad Agali avec deux autres organisations djihadistes, dont Al-Mourabitoun de Mokhtar Belmokhtar.
En Égypte, l'ex-président Hosni Moubarak a quitté définitivement par la Cour de cassation dans un procès pour la mort de manifestants durant la révolte qui a provoqué sa chute en 2011.
Le président Donald Trump dénonce une chasse aux sorcières en réaction aux révélations sur la rencontre entre son ministre de la Justice et l'ambassadeur russe durant la campagne présidentielle de 2016.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute écho pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, la majeure partie de l'opposition s'est dotée d'une nouvelle direction après le décès de son chef, Étienne Tshisekedi. Elle cherche à relancer les discussions sur l'application de l'accord de co-gestion de la République démocratique du Congo, signé avec le pouvoir. Les 9 plateformes qui composent le rassemblement ont désigné Félix Tshisekedi, fils du vieil opposant décédé, comme président du rassemblement et Pierre Lumbi comme président du comité des sages, a déclaré à l'AFP le député d'opposition Déli Sessanga.
Le directeur général des douanes gabonaises a été inculpé et incarcéré et 4 mandats d'arrêt internationaux émis dans le cadre de l'opération anticorruption Mamba lancée au Gabon. Tatania Mosso.
Alain Djoumbi Ossami, directeur général des douanes, a été inculpé de détournement de deniers publics et faux en écriture et placé sous mandat de dépôt par un juge d'instruction à Libreville. Il rejoint en prison d'autres responsables incarcérés dans le cadre de l'opération Mamba, dont l'ex-ministre du pétrole Étienne Dieudonné Ngoubou et Magloire Gambia, qui fut le tout-puissant ministre de l'économie jusqu'en 2015. Des mandats d'arrêt ont été également lancés contre 4 Gabonais établis à l'étranger, dont Frank Ping, fils de Jean Ping, rival du président Ali Bongo Ondimba. Selon le parquet, il est poursuivi pour corruption active sans autre précision. Un autre mandat d'arrêt vise l'ancien président directeur général de la Poste, Alfred Mabika Muyama, accusé de détournement de fonds. Monsieur Mabika, limogé en 2015, avait dans un livre accusé l'actuel Premier ministre Emmanuel Issoze Ngondé d'avoir contribué aux déboires financiers de la Poste et sa filiale Postbank par des détournements de subventions lorsqu'il était ministre au budget en 2011 et 2012.
Pendant ce temps, au Nigeria, l'agence anticorruption du pays a annoncé hier avoir inculpé les groupes pétroliers Shell et Eni pour corruption dans le cadre d'un contrat pétrolier de 1,3 milliard de dollars. La Commission pour les crimes économiques et financiers a mis en accusation 11 personnes pour corruption selon des documents de justice. Le Britannique Shell, l'Italien Eni et sa filiale nigériane sont soupçonnés d'avoir payé un montant cumulé de 801 millions de dollars à des hommes d'affaires et politiciens nigérians. Shell et Eni ont nié tout comportement illégal.
Le chef djihadiste malien Iyad Agali, d'Ansardine, a annoncé la fusion de son organisation avec 2 autres, Al-Mourabitoun de Mokhtar Belmokhtar et l'Émirat du Sahara, une branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, opérant dans le nord du Mali. C'est ce qu'a confirmé dans une vidéo diffusée jeudi l'agence privée mauritanienne Al-Akhbar, après l'agence Nouakchott Information. Le nouveau mouvement, lié à Al-Qaïda et dirigé par le Touareg Iyad Agali, est baptisé Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans.
Concernant toujours le Mali, l'ONU a annoncé hier la nomination du général belge Jean-Paul Dekoninck à la tête des casques bleus dans ce pays. Il remplace son homologue danois, Michael Lollesgaard, au commandement de la MINUSMA. Forte de 13 000 hommes et faisant l'objet d'attaques répétées, la MINUSMA, lancée en 2013, est la mission de maintien de la paix de l'ONU la plus coûteuse en vies humaines depuis la Somalie 1993-1995, avec déjà une centaine de casques bleus tués.
Le Sénégal et la Gambie ont décidé de relancer leurs relations à l'occasion de la visite à Dakar du nouveau président gambien Adama Barrow. Anastasie Tudiech.
Dans une conférence de presse conjointe hier à Dakar, le chef de l'État sénégalais Macky Sall a dit souhaiter le soutien du président Barrow dans la recherche de paix en Casamance et dans la lutte contre les trafics de bois et de drogue. La paix en Gambie et la paix au Sénégal. La paix au Sénégal et la paix en Gambie. Et nous trouverons un accord en matière de sécurité, a déclaré son homologue gambien Adama Barrow. La Casamance, séparée du nord du Sénégal par la Gambie, est confrontée à une rébellion depuis 1982. Les deux chefs d'État se sont également engagés à achever la construction du pont sur le fleuve Gambie. Dakar a été à la pointe des pressions diplomatiques et surtout militaires de la CDAO pour contraindre l'ancien président gambien Yahya Jammeh à quitter le pouvoir. Adama Barrow a été accueilli le 15 janvier à Dakar, où 4 jours plus tard, il a prêté serment à l'ambassade gambienne. Il a regagné Banjul le 26 janvier.
En Égypte, l'ex-président Hosni Moubarak a été acquitté définitivement hier par la Cour de cassation au Caire dans un procès pour la mort de manifestants durant la révolte qui a provoqué sa chute en 2011, Jacques Aristide.
Hosni Moubarak avait été condamné à la prison à vie en juin 2012, mais 2 ans après, un tribunal l'avait blanchi. Le parquet avait toutefois introduit un recours en cassation. Hier, cette cour a finalement confirmé l'abandon des charges. Moubarak, qui a régné 30 ans sur l'Égypte, a été accusé d'avoir incité au meurtre des participants à la révolte de 18 jours, au cours de laquelle quelques 850 personnes ont été tuées lors d'affrontements avec la police. Hier soir, on ignorait si l'homme de 87 allait pouvoir quitter ou non l'hôpital militaire où il est en résidence surveillée depuis pratiquement son arrestation en 2011. En janvier de l'année dernière, la cour d'appel avait confirmé les amendes et une peine de 3 ans de prison pour lui et ses 2 fils dans une affaire de détournement de plus de 15 millions de dollars. La peine tenait compte du temps déjà effectué et ses fils Alaa et Gamal ont été remis en liberté.
Les gardes-côtes italiens ont annoncé hier avoir coordonné les opérations de secours d'environ 970 migrants au large de la Libye, confirmant que les flux restent importants dans cette zone. Claire Morin-Gibourg.
Ce sont plus de 13 400 migrants que l'Italie a accueillis depuis début janvier, soit une hausse de 47% par rapport à 2016 et de 70% par rapport à 2015. Pourtant, la Méditerranée est encore plus dangereuse en hiver. Selon l'ONU, plus de 440 personnes sont mortes ou ont disparu en 2017 en tentant de rejoindre l'Europe depuis la Libye. Les 970 migrants secourus jeudi se trouvaient à bord de 4 canots pneumatiques, une petite barque en bois et une plus grande. Ils ont été secourus par un navire des gardes-côtes italiens, un navire norvégien du dispositif européen Frontex et 2 navires humanitaires des ONG SOS Méditerranée, Médecins Sans Frontières et Proactiva Open Arms. Les gardes-côtes italiens ont également reçu un appel à l'aide d'un voilier parti de Grèce avec à bord 85 migrants cherchant à rejoindre la pointe sud de l'Italie. Secourus par un navire maltais qui se trouvait dans la zone, les migrants ont été débarqués dans le port grec de Kalamata.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici à Washington, le président Donald Trump a dénoncé hier une chasse aux sorcières et réagissait aux accusations sur les contacts entre certains de ses fidèles, dont son ministre de la Justice Jeff Sessions, et des responsables russes pendant la campagne électorale américaine de 2016. Le point avec Jean-Roger Bion.
Le président Trump a écrit dans un communiqué que Jeff Sessions est un homme honnête, tout en accusant les démocrates d'avoir perdu le sens de la réalité après avoir perdu une élection que tout le monde pensait qu'il devait gagner. Donald Trump reconnaît toutefois que son ministre aurait pu répondre plus précisément lorsqu'il a assuré publiquement ne pas avoir eu de contact avec des responsables russes pendant la campagne, alors qu'il a rencontré l'ambassadeur de Russie à Washington à 2 reprises l'an dernier. La véritable histoire, c'est toutes les fuites illégales d'informations classifiées et d'autres informations. C'est une véritable chasse aux sorcières, conclut Donald Trump. Jeff Sessions, qui a reconnu hier avoir effectivement rencontré l'ambassadeur russe à Washington, a annoncé qu'il se tiendrait à distance de toute enquête sur d'éventuelles ingérences russes dans la campagne électorale américaine. Il y a eu de multiples appels à la démission de M. Sessions, notamment chez les démocrates.
En Syrie, l'armée et son allié russe annoncent un nouveau revers pour les djihadistes du groupe État islamique. La reprise par les forces du régime de la ville historique de Palmyre. Cette oasis située dans le centre de la Syrie avait été conquise en mai 2015 par les djihadistes pour ensuite être reprise par le régime en mars 2016 avant de retomber dans les mains des djihadistes en décembre.
En France, des policiers ont mené hier une perquisition au domicile de François Fillon et son épouse à Paris dans le cadre de l'enquête sur les emplois présumés fictifs dont la famille du candidat de la droite à la présidentielle aurait bénéficié selon Le Parisien. Sollicité par l'agence Reuters, le parquet national financier n'a pas souhaité commenter l'information.
Et a signalé aussi que le Parlement européen a levé hier l'immunité parlementaire de la dirigeante d'extrême droite et eurodéputée Marine Le Pen à la demande de la justice française. Elle reproche à Madame Le Pen d'avoir diffusé des images d'exactions du groupe État islamique sur Twitter. Convoquée en avril 2016 par un juge d'instruction français dans cette affaire, Marine Le Pen, candidate à la présidentielle d'avril prochain, avait refusé de s'y rendre, invoquant son immunité parlementaire. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Morgane Guiriec.
Hausse des prix des denrées alimentaires au Burkina Faso. Le gouvernement tente d'expliquer le phénomène. La réglementation des prix des produits importés est faite par la fixation des marges bénéficiaires. Il appartient donc à l'importateur de calculer le coût de revient du produit et d'appliquer la marge bénéficiaire à lui accorder par la réglementation. C'est ce qu'a estimé le ministère du Commerce lors d'une conférence de presse. Air France KLM prête à accompagner Air Côte d'Ivoire. Lors d'une rencontre avec le président ivoirien Alassane Ouattara, le PDG de la compagnie aérienne a assuré le soutien opérationnel, financier et commercial de son groupe à Air Côte d'Ivoire. D'après Abidjan.net, il a notamment annoncé la contribution de son groupe à l'augmentation du capital de la compagnie aérienne ivoirienne et l'extension du réseau de desserte des deux compagnies en Afrique à partir du hub d'Abidjan. Et enfin, retour du FMI au Gabon, le Fonds monétaire international s'est engagé à convenir rapidement d'un nouveau programme de crédit au titre de la facilité élargie de crédit au Gabon. Mesure que le FMI déclenche lorsqu'un pays se heurte à de graves problèmes de balance des paiements à moyen terme. Le pays a réduit ses dépenses mais a toujours du mal à faire face à ses arriérés de paiement de salaire et ses dettes envers le secteur privé.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Voilà, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La Tropical Amissa Bongo au Gabon en cyclisme.
La quatrième étape qui devait avoir lieu hier entre Fougamou et Lambaréné a dû être annulée en raison d'un incident technique survenu sur l'un des avions qui devait transférer les coureurs de la province du Haut-Ogooué vers Lambaréné. Malgré toutes les mesures prises pour assurer les vols aériens dans les meilleurs délais afin de permettre aux coureurs d'être au départ hier midi, les organisateurs ont donc pris la décision d'annuler l'étape en concertation avec le président du jury et les responsables des équipes engagées sur l'épreuve gabonaise. On rappelle que le Biélorusse Stanislas Bascou garde le maillot jaune de leader sur ses épaules avant le départ de la cinquième étape aujourd'hui entre Lambaréné et Kango.
La Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans en Zambie.
Le Cameroun qui bat le Soudan 4-1 et se relance après sa défaite au premier match. Le Sénégal qui domine l'Afrique du Sud 4-3 dans le deuxième match de la journée.
Mazembe recrute un joueur belge.
Après avoir mis un terme à son prêt à Montpellier, Anthony Van Den Bor s'est engagé en faveur du tout-puissant Mazembe. Le latéral international belge retrouve à 29 ans sa région natale du Katanga. Outre celle du club belge, il a également porté les couleurs des clubs italiens de la Fiorentina et du Genoa ou encore des clubs anglais comme Portsmouth. Enfin, Idrissa, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Golden State Warriors bat Chicago Bulls 94-87 et Phoenix écrase Charlotte 120-103.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Il y a 5 ans, au Congo-Brazzaville, c'était le 4 mars 2012, explosion dans un dépôt de munitions, bilan près de 300 morts. Les survivants de cette tragédie ont toujours du mal à oublier et ils appellent les autorités à rebâtir leur maison, toujours en ruine. De Brazzaville, notre correspondant Nguela Ngoussou.
Bâtiment toujours en ruine et maintenant transformé en décharge publique, le quartier de Yoro Ampila n'a pas changé de visage depuis cette explosion. Mauvais souvenir des survivants.
Franchement, ça me rappelle beaucoup de choses parce que dans ta vie, tu ne peux pas imaginer pour un même jour que tu puisses avoir au moins 40 ou 50 personnes qui meurent devant toi et que tu les reconnais de nom et prénom. Pour moi, c'est quand même décevant. Non, c'est pas facile à expliquer. C'est comme si c'était encore hier.
Ces événements, je ne sais pas si ça pourra encore, c'est pas de ma tête, mais ça restera gravé jusqu'à la fin de ma vie. J'ai perdu des amis, j'ai même vu des gens qui ont eu des membres de leur corps amputés et autres.
Les populations attendent toujours 5 ans après que les maisons soient rebâties par l'État.
Nous continuons à vivre dans la décombre. C'est comme si notre situation ne préoccupe pas les autorités de l'État. Nous sommes abandonnés à notre triste sort, on ne sait même pas quoi faire. Je ne sais pas s'ils pensent aussi à nous, ceux qui sont à la tête de ce pays.
5 ans après, rien n'a changé, au contraire. L'hypo et l'hypertension est en train de saccager nos papas ici-là. Venez reconstruire les maisons, c'est ce qu'on demande au gouvernement congolais, qu'ils reconstruisent les maisons au lieu de construire là où se trouvaient les explosifs. Nous avons besoin d'eux sur le terrain, qu'ils reconstruisent les maisons. On a habité Mpila, c'est vrai, mais où Mpila? C'est notre Mpila, il restera notre Mpila, venez reconstruire nos maisons.
Dans les décombres, ça dit par tes propres efforts, tu as essayé un peu d'avoir des tôles, tu as essayé un peu de bricoler, voilà, on ne s'occupe même pas de nous, on est là, ça fait quand même 5 ans. Voilà.
À l'épicentre de cette explosion, l'État a reconstruit de belles maisons. Celles-ci contrastent avec des taudis où habitent des survivants qui n'ont pas été relogés.
Là, on a construit seulement de l'autre côté vers le col 31J, mais nous, derrière le logement blindé, c'est pas construit.
Pas de réponse, et jusqu'à aujourd'hui là. Donc vraiment, c'est étonnant même. Là où il y avait l'explosif du 4 mars, on a construit les maisons là. Les maisons en étage et tout. Et nous, on nous a oubliés là.
Aujourd'hui, des centaines de familles ont pu être relogées à Kintélé, à une trentaine de kilomètres au nord de Brazzaville. Elles sont satisfaites des conditions de leur relogement, mais tiennent toujours à repartir à Mpila, leur quartier d'origine.
On est logé dans les logements. Il manque tout. Parfois l'eau. Ils rentrent dans les maisons. Vous voyez comment nous vivons. Hein? La déception totale, une déception totale. Nous sommes là en 2017. Jamais un membre du gouvernement est venu ici voir, enquêter comment les gens vivent ici.
Ici, ça va parce qu'on trouve notre paix de nous-mêmes. Parce qu'en même temps, on disait, oh, les sinistrés, on leur donne le pain comme ceci, comme cela. Mais depuis qu'on est là, on n'a même pas vu même un kilo de riz ou bien de poisson. Mais depuis qu'on est ici, rien. On est abandonné parce qu'on voit rien.
L'explosion de Mpila avait fait, selon le gouvernement, quelques 300 morts. Des militaires avaient été jugés et condamnés, dont le colonel Marcel Ntsourou, par sursis. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Séjour au Mali depuis mercredi du ministre délégué aux affaires étrangères de l'Inde, Mobachar Djawed Akber, a rencontré les plus hautes autorités maliennes et signé des accords de coopération. Yéa Samaké, ambassadeur du Mali en Inde, revient sur l'objet de cette visite.
L'objet de la visite, c'est en fait la tenue de la première session de la grande commission mixte entre le Mali et l'Inde. Le Mali, en 2009, a signé avec l'Inde l'accord de consultation politique, économique, sociale et culturelle. C'est dans le cadre de cet accord que s'est tenue la toute première session de la grande commission mixte entre le Mali et l'Inde.
Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce voyage-là?
La séance de travail a été très productive et les attentes, c'est d'abord faire le point de la coopération entre le Mali et l'Inde à un niveau ministériel. Mais l'objectif aussi, c'est de regarder les perspectives de coopération, promouvoir les échanges commerciaux entre le Mali et l'Inde, où l'Inde donne des quotas préférentiels hors taxes au Mali et certains pays africains. Donc les investisseurs maliens peuvent aussi considérer l'Inde comme une destination où ils ont des traitements préférentiels. Donc la coopération Sud-Sud est bien vivante entre le Mali et l'Inde, et les projets financés par l'Inde s'élèvent aujourd'hui à plus de 357 millions de dollars dans 7 projets prioritaires. Et récemment, l'Inde vient d'approuver une ligne de crédit à une hauteur de 100 millions de dollars pour le financement du projet d'interconnexion Sékassou-Bouni-Bamako.
On parle aussi de la réfection des mausolées.
Ils ont fait un don de 500 000 dollars remis par le ministre indien à Madame le ministre de la Culture du Mali à hauteur de 500 000 dollars pour la restauration et la préservation des manuscrits de Tombouctou. Et ils ont aussi souhaité faire l'exposition de ces manuscrits en Inde les mois à venir dans un projet qui s'appelle Taj Mahal Rencontre Tombouctou. Donc les manuscrits de Tombouctou seront exposés à Taj Mahal. Vous vous rendez compte, l'une des merveilles du monde qui reçoit à peu près 80 000 visiteurs par semaine.
C'était Yaya Samake, l'ambassadeur du Mali en Inde, joint à Bamako par Bagassi Koura.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
7 ans après la mise en garde de Cotonou contre les faux médicaments, le Bénin a décidé d'intensifier ses efforts pour mieux conscientiser les populations sur les dangers que constituent ces faux médicaments. De Cotonou, notre correspondante Ginette Fleur Adondé.
Sale temps pour les vendeurs de médicaments de la rue. Depuis près d'une semaine, ils font les frais de leur obstination à tout miser sur un commerce perçu comme une infraction grave. De toutes les descentes effectuées dans ces pharmacies à ciel ouvert, celle-ci restera pour longtemps dans les annales de l'histoire. Une descente inopinée qui aura permis à la mission conjointe de procéder à la saisine de 84 tonnes de faux médicaments et à l'arrestation de 109 personnes. Le bilan est encore partiel puisque les descentes se poursuivent dans les villes du Bénin. Djibril Kouito est vendeur de médicaments frelatés à Djégoulé, le plus grand marché de ce genre de médicaments.
Ils ont cassé tout. Et voilà, les gens se sont partis prêter l'argent. Il faut voir ce qu'ils dépensent actuellement. Qu'allons-le faire pour juste pouvoir payer ce qu'ils ont prêté là? C'est pas bien.
Ceux qui exercent la vente illégale de médicaments sont de petites mains d'une filière nationale et internationale bien structurée, clament certains Méninois qui disent ne pas comprendre. L'acharnement a puni les petites gens alors que le commerce profite à des personnes bien en vue sur l'échiquier national.
Ça fait pitié. Il y a des dettes maintenant dans ce pays. Des crédits que les femmes emploient juste pour faire leur commerce. Il y a des femmes qui ont emprunté de l'argent. Et regardez ce qu'on leur fait dans ce marché. Avec peine, on mange. Avec peine, on vit. Et regardez ce qui se passe maintenant dans ce grand marché.
Des 109 arrestations opérées, 49 personnes ont été placées mercredi sous mandat de dépôt. Pharmaciens et autres spécialistes se félicitent de cette opération qui aura porté bien de fruits. Pour le directeur des pharmacies, siffler la fin de la pagaille était devenue une urgence capitale.
C'est la première fois que c'est fait de façon simultanée sur toute l'étendue du territoire, c'est-à-dire à Cotonou, à Porto-Novo, à Bouicon, à Parakou. C'est déjà une bonne chose et que ça a eu une telle réussite, ça veut dire que l'opération a été bien organisée et que la suite sera encore et plus efficace. Ça ne peut qu'être une lutte permanente, ça doit être sans répit. Nous allons être là pour maintenir la veille.
La lutte sera rude et sans complaisance, précise ici le président de l'Ordre des pharmaciens. Pour lui, il faut en finir avec ces chiffres honteux qui font du Bénin le deuxième pays au plan africain en matière de vente de médicaments frelatés.
L'opération vise tous ceux qui sont impliqués dedans. Ce n'est pas que les menus fruitaires, vous payez des bonnes dames. Oh, les faux médicaments tuent plus que les armes. À supposer que ce soit des armes qui soient vendues comme ça à Djégoulé, vous croyez que le gouvernement allait laisser faire? L'enquête est en cours. Si des pharmaciens sont impliqués, ils seront pris comme tout le monde.
Avec le démantèlement du réseau de vente de faux médicaments, ce sont des milliers de personnes déversées sur le marché du chômage. Et c'est en cela que certains Béninois désapprouvent l'opération, même s'ils sont conscients de ce que le code des douanes rend tout détenteur de produits de contrebande pénalement responsable. De Cotonou, Ginette Fleur Adondé pour VOA Afrique.
Le marché international du cinéma africain Mika est l'une des pièces maîtresses du FESPACO qui bat son plein à Ouagadougou au Burkina Faso. Acheteurs, producteurs, vendeurs et distributeurs du monde se rencontrent à chaque édition du festival pour faire des choix, échanger sur leurs expériences respectives et diversifier l'offre en matière de production audiovisuelle et cinématographique. Reportage de notre correspondant Issa Napon.
Dans des allées feutrées d'une grande salle, se dressent des stands tout aussi colorés les uns que les autres. Des stands pris d'assaut par des exposants aux offres diversifiées, mais tout en rapport avec le cinéma ou l'audiovisuel d'une façon générale. Sur place, tout se côtoie. Ateliers de visionnage, stands de présentation d'outils de production et de distribution cinématographique, vente de programmes. Halima Ouedraogo, elle, est animatrice de l'association Cinomad.
L'association Cinomad est une structure basée à Bourgogne-du-Nassau. Et nous diffusons des outils de sensibilisation. Ce qui nous motive au MICA ici, c'est la rencontre d'autres réalisateurs, d'autres producteurs, voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour que le cinéma africain ait en avance, et en particulier le cinéma burkinabé.
À 150 mètres de son stand se trouve l'installation de H Studio Cinéma. Jules Alexandre Komara en est le porte-parole.
C'est une société ivoirienne et qui tourne autour de trois pôles, c'est-à-dire le doublage de films, la location de matériel et aussi la production. Nous restons positifs en espérant qu'à la sortie de SMICA, nous pourrons avoir beaucoup plus de contacts et avoir aussi un réseau.
Des va-et-vient aussi de réalisateurs de tous bords, désireux de vendre leur production, à l'image du lauréat de Success Film Award 2017 au Burkina Faso, Yacouba Napon, directeur de Z Production.
Je suis là au MICA pour faire des rencontres et essayer de vendre mon film Adieu Belle-Mère, qui a été le premier prix succès cinéma au Burkina Faso. J'ai des acheteurs qui sont intéressés et qui voulaient, ils avaient besoin impérativement d'une copie.
Tout le monde a la possibilité, aussitôt que les choix des films sont faits, de les visionner dans un espace consacré où Séné Sawadogo est le responsable de la vidéothèque disponible au MICA.
Cette vidéothèque est composée de box de visionnage et puis il y a une liste des films qui sont à la disposition des professionnels.
Tout ou presque tous les segments représentatifs du milieu cinématographique se retrouvent dans ces allées du marché international du cinéma et de la télévision africain. Ainsi en va-t-il pour ces visiteurs du jour, qui vont du professionnel au simple curieux amateur de 7e art africain. Jean Digne en est l'un d'eux.
Ce qui m'intéresse, c'est de montrer que l'Afrique est un laboratoire de nouvelles images. Le MICA, on repart avec des idées et que je fais partie des gens qui se battent pour que la diversité ne soit pas une caricature.
Le MICA se présente comme la bourse des programmes audiovisuels africains et sur l'Afrique. C'est le lieu de rencontre entre les professionnels de différents pays africains, mais aussi d'Europe et du continent américain, permettant ainsi aux cinéastes de rencontrer les acheteurs, les programmateurs de festivals, les télévisions et les distributeurs. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Chères auditrices, chers auditeurs, branchez-vous sur VOA Afrique pour participer au Calling Show tous les mercredis et vendredis à 18h, temps universel. Avec vous, on discute de tout sans tabou. Politique, société, culture, justice et bien plus encore. Vous pouvez même nous suggérer des sujets sur notre page Facebook. Ne manquez pas ce rendez-vous car c'est votre avis qui nous intéresse.
En direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.